Jean, je baptise dans l'eau. Je pense que vous avez à l'esprit la suite, pas dans l'évangile de Jean, mais dans les autres évangiles. Mais lui, il vous baptisera dans l'esprit, dans le feu de l'esprit. Enfin, il vous baptisera dans le feu, c'est le feu de l'esprit. Et moi, j'ai envie de dire cela autrement. J'ai envie de dire, et lui, il fera de vous ses messies. Alors, à Noël, nous fêtons la venue du Messie. Cet homme né pauvrement, mort cruellement. Et en lui, avec tous les chrétiens, nous reconnaissons la parole de Dieu pleinement manifestée. Mais je me demande si, à l'écoute de ces deux premiers textes, et puis du troisième, que je n'ai pas encore lu dans le prophète Isaïe, je me demande si pour être fidèle à la parole manifestée en Jésus, nous ne sommes pas appelés, chacun de nous, à devenir aussi des messies. Alors peut-être certains d'entre vous, cette formulation pourrait être un peu surprenante. Généralement, on considère qu'il n'y a qu'un seul messie. Alors, d'une certaine manière, c'est bien vrai. Selon notre foi chrétienne, selon la doctrine classique, j'ai envie de dire, c'est bien vrai. Mais d'une autre manière, et notamment celle que l'on trouve dans l'Ancien Testament, eh bien, on pourrait être un peu autrement. Alors, je ne vais pas rentrer dans une longue explication à ce sujet, si certains sont intéressés par des questions un peu plus bibliques, vous pouvez venir me trouver, on en parlera. Mais je veux simplement en venir à ce texte d'Ésaïe qui est choisi pour aujourd'hui et que je n'ai pas inventé, qui est proposé comme lecture pour le troisième dimanche de l'Avent. Et ce texte qui commence, vous connaissez bien, par l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération des captifs. Et ça, ce sont les premières paroles de la prédication publique de Jésus à la synagogue de Nazareth. Et on pourrait traduire presque « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il a fait de moi un Messie ou un Christ. » Ce texte que lit Jésus à la synagogue de Nazareth, vous savez, alors manifestement, ce n'était pas celui qui était prévu. C'est comme si, on prévoyait la lecture, lui, il était un enfant lors d'un culte, et puis lui décide de choisir un autre texte. Mais ce texte, c'est pas n'importe quel texte, c'est le texte qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et on peut traduire par « Il a fait de moi un Messie ». Quand Jésus a lu ce texte, vous rappelez peut-être l'histoire, on s'est violemment fâché contre lui. On s'est fâché contre lui parce que finalement, qui était-il pour se proclamer le Messie de Dieu? Alors, du temps, tu leur donnais raison à ces juifs du temps de Jésus. On a toujours raison de se méfier de ceux qui se prennent pour le Messie. Hier comme aujourd'hui. C'est pour ça que pour nous, ce n'est pas si facile. Nous, on a mangé, il est venu il y a tellement longtemps, maintenant les choses sont plus claires pour nous et pourtant. Jésus, il était le Messie qui nous a reconnus parce que lui, justement, il ne faisait pas que dire. Mais il faisait ce qu'il disait. Il disait ce qu'il faisait. Il était en cohérence entre ses actes et ses paroles. Et c'est pourquoi il avait le droit de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux captifs. » Parce que cette bonne nouvelle, il l'a vécue avec chacun. Mais pourtant, et c'est pour ça que, à la suite des premiers chrétiens, nous le reconnaissons comme le Messie, celui qui a incarné pleinement la parole de Dieu. Mais pourtant, en faisant cela, en marchant sur cette terre, en guérissant les malades, en consolant les endeuillés, en accompagnant ceux qui étaient malades, d'être entouré, riche ou pauvre, Jésus nous montre, en fait, que les paroles du prophète Ésaïe peuvent toujours être actuelles. Ces paroles du prophète Ésaïe, qui dataient de quelques 5 siècles avant que Jésus les prononce, il les a rendues actuelles. Et je crois qu'il veut qu'elles soient toujours actuelles aujourd'hui. Alors nous écoutons ce texte, qui est un texte absolument magnifique. Je vous invite à vraiment vous en remplir pleinement. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Il m'a envoyé pour annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais moi, j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. Remplacer la cendre sur leur tête par un splendide diadème, leur mine vigoureuse, par une huile parfumée, leur air pitoyable, par un habit de fête. Alors, on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu et à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues et restaureront les vides restés si longtemps dévastés. Voilà, le texte est long, je n'en ai lu que la moitié, je vous propose de lire jusqu'au verset 11. Je vous invite alors à prendre la version de la Bible que vous avez. Classiquement, nous avons, dans l'Église chrétienne, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, encore en bien des endroits, entendu ce texte comme une prédiction. La prédiction de ce que Jésus allait réaliser. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aborder ces textes pour ce qu'ils sont et leur rendre leur juste place. Et je pense que ça nous aide à trouver nous aussi notre juste place. Les premiers chrétiens, notamment l'apôtre Paul, qui cherchaient à voir dans l'Ancien Testament la prédiction de la venue du Christ, ont vu juste dans le sens où ce texte-là, eh bien, Jésus l'a pleinement réalisé. Jésus a pleinement manifesté cette présence de Dieu qui apporte une bonne nouvelle, qui prend soin des désespérés, qui proclame aux déportés qu'ils seront libres, qui fait tomber leurs chaînes, etc., etc., qui donne le réconfort à ceux qui sont en deuil. Jésus a accompli. Mais pourtant, je reste persuadé, si on étudie ce texte pour ce qu'il dit, que ce texte n'est pas une prédiction. Ce texte était déjà une parole prophétique pour les gens du temps du prophète Ésaïe. Des gens qui avaient besoin d'entendre. Alors, c'est difficile de savoir s'il s'adressait à des gens qui revenaient d'exil ou qui s'apprêtaient à le faire. Dans tous les cas, Ésaïe s'adressait à des gens qui avaient connu la douleur, un statut de déporté, emmené loin de chez eux, et il leur dit « Cette parole m'a été proclamée de la part de Dieu. Pour vous, c'est vrai. » Et le prophète Isaïe témoigne pleinement de la présence de Dieu au moment où il dit ces paroles. Alors, si on reprend la phrase du texte, vous regardez dans vos Bibles, comment c'est dit ? Là, j'ai lu « Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré pour... » et m'a donné pour mission, etc. Mais dans une traduction plus classique, qui est celle de la Bible seconde, de Jean II, une autre traduction dit « Le Seigneur me remplit de son esprit, car il m'a oint. » Il m'a oint, lui, ça peut prononcer, mais on a l'habitude. Et puis la top à la traduction publique de la Bible, je pense généralement à cette traduction. « Le Seigneur me remplit de son esprit, car il a fait de moi un Messie. » Voilà, c'est là que je voulais en venir, plutôt c'est de là que je voulais partir, ou repartir. C'est que si la tobe traduit de cette manière, c'est pas pour que ce soit plus joli, c'est parce que réellement, on est tout à fait légitime à travers de cette manière. Le Seigneur a fait de moi un Messie. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Jean est venu et il a baptisé. Mais Jean a aussi promis, de la part de Dieu, que viendrait son esprit pour nous baptiser dans notre baptême, dans le baptême de feu. Jean et Jésus, à sa suite, ont proclamé que Dieu nous enverrait son esprit pour que nous puissions vivre aussi dans notre vie quotidienne en faisant un écho à son appel. Alors, bien sûr, Dieu s'est révélé en Jésus de Nazareth. Et à partir des concepts religieux de leur temps, les juifs contemporains de Jésus, qui ont reconnu comme pleine manifestation de Dieu, eh bien, ils ont vu l'archétype du Messie. Ils ont vu l'image idéale parfaite qu'on ne peut pas dépasser, de l'homme consacré à Dieu et par Dieu. Mais pour autant, pour les Juifs, du temps de Jésus, il n'est pas si clair qu'il y ait un seul Messie. Ça dépend des tendances, mais pour la plupart, il est à lui qu'il y a eu des Messies. Et Isaïe en a été un en se manifestant de cette manière. Ce qui est sûr, c'est que si on écoute la parole de Jésus que nous fêtons à Noël comme le Messie, c'est qu'il est venu pour provoquer une brèche dans le temps de l'humanité, une brèche dans le temps de l'humanité, pour que chacun de nous, à sa suite, nous ne cessions de proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Et ça, c'est le travail des récits. C'est le travail de ceux qui sont consacrés pour Dieu. Et je crois que c'est justement notre travail de chrétiens, de nous lever pour annoncer cette bonne nouvelle aux captifs, comme dans le texte des Aides. Ce texte n'est pas réservé à Jésus. Chacun de nous peut et doit l'annoncer. Se lever pour soulager ceux ceux qui sont fatigués, se lever pour poser sur la tête de ceux qui sont abattus une couronne royale, une couronne de paix. C'est ainsi que chacun de nous, nous sommes avant, nous sommes attendus. Le Seigneur nous le promet. Il pourra faire rayonner sur nous sa splendeur, sa paix et sa grâce. C'est ce que nous disait l'apôtre Paul tout à l'heure. Il fera de nous ses messies, ses envoyés, ses bénis, ses moins lui le saint. Cette image nous est tellement familière aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de nous tous pour cela. Le monde aussi en a besoin. Parce que justement, le deuil est toujours présent, la tourmente aussi. Nous ne savons pas si demain nos conditions seront plus difficiles qu'aujourd'hui. Ou meilleur, personne ne le sait, surtout pas ceux qui semblent prendre un certain plaisir à nous embarrasser avec ça pour prendre les journaux ou les émissions de télévision. Mais sans forcément nous proclamer comme messie, parce que ça prête trop à confusion, saurons-nous entendre l'appel qui nous est adressé, qui est très sérieux, qui nous dit chacun de nous, nous avons la valeur d'un messie, si nous avons reçu le baptême, si nous l'avons envie. Est-ce que nous serons de ceux qui, justement, sauront voir avec l'Esprit du Seigneur, comme le prophète Isaïe, serons-nous de ceux qui sauront apporter la paix, la confiance, l'espérance, quand peut-être autour de nous on doutera. Serons-nous de ceux qui sauront se confier en Dieu et en la puissance de sa parole pour affronter les jours difficiles que nous connaissons, comme cet oracle prophétique. Et comme tous les oracles prophétiques du prophète Isaïe, face à une situation de douleur, il a continué d'annoncer la présence de Dieu, le soutien à ceux qui sont démunis. Serons-nous de ceux qui continueront d'espérer quand peut-être tous autour de nous auront abandonné? C'est la question que nous allons poser chaque jour en tant que chrétien. C'est chaque jour qu'on peut espérer face aux choses qui nous tourmentent, qui tourmentent nos proches. Et je crois qu'en tant que chrétien, nous pouvons justement être de ceux qui continuent d'espérer toujours. Et nous pouvons, ce n'est pas juste un slogan comme ça qui nous convaincrait simplement par le fait de le dire. Mais nous le pourrons justement parce que nous préparons à fêter Noël. Et qu'avec la venue de notre Seigneur Jésus le Christ à Noël, Dieu nous redit que notre existence ne dépend pas des apparences, ni des possessions, ni des richesses matérielles que nous avons, ou des richesses honorifiques. Cette naissance dans une crèche vient pour nous guérir à tout jamais la peur de l'avenir. Elle vient nous guérir car avec elle nous savons que notre vie se tient ailleurs. Nous n'avons alors pas à craindre la crise, car nous savons que personne ne peut nous prendre notre identité qui en fait nous est donnée par Dieu seul. Nous sommes des enfants du Père, avec celui qui est dans la crèche et qui manifestera la puissance de Dieu. Et si nous ne craignons pas l'avenir, si nous arrivons à intégrer tellement profondément cette bonne nouvelle que nous n'avons plus peur, alors nous pouvons être justement de ceux qui luttent efficacement pour les droits de chacun. Et tout spécialement le droit à la dignité de toute vie, dans le travail, dans la famille, depuis les premières années jusqu'à la fin de la vie de la vieillesse. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ à Noël, nous conduit à ne pas craindre pour notre vie, notre existence. Et cela même face aux difficultés matérielles. Pour autant, ça ne veut pas dire de se retirer dans un monde angélique avec toutes les belles choses qu'il va y avoir dans ce sapin de Noël. Un monde d'oubli, d'indifférence, vis-à-vis de la réalité. Au contraire, cette bonne nouvelle vient là pour nous guérir de la peur afin que nous puissions lutter quotidiennement. Non pas parce que notre existence en dépendait, mais parce que nous voyons dans chaque humain dans la peine, particulièrement dans la souffrance, un enfant de Dieu, un frère ou une sœur aimée de Dieu. Un frère ou une sœur qui attend que nous soyons auprès de lui un porteur de bonnes nouvelles, un Messie, un petit Christ, disait même Martin Luther. Un petit Christ qui, à sa manière, avec ses modestes forces, nous sont pas élus, c'est tellement clair. Avec son caractère, un petit Christ qui se laisse inspirer par la puissance de l'Esprit, l'Esprit de paix, et qui puisse laisser jaillir au fond de lui, dans ses mots, dans ses actes, la parole de Dieu venue d'en haut, afin, comme le dit Jean l'Évangéliste, la vraie lumière, celle qui vient d'en haut, continue de venir dans le monde et illumine